douce odeur de la victoire. Permettez-moi de vous annoncer une bonne nouvelle. Lorsque vous étiez né de nouveau, vous êtes né pour être gagnant. Vous êtes amen à ça? Et le plan de Dieu pour vous, c'est que vous remportiez toujours la victoire, toujours la victoire. Je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. C'est une lettre écrite par l'apôtre Paul. Alors, j'ai pris un petit peu une version paraphrasée pour que tout le monde puisse bien comprendre, particulièrement pour les nouveaux. Et on profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue pour ceux qui nous visitent de façon qui viennent de temps en temps. Donc, les gens de Malmedy, non? Adrien? Stable, voilà. Alors, bienvenue. Bienvenue à Adrien ce matin. Que le Seigneur puisse vous bénir à travers le message et tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. Verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Le plan de Dieu pour nos vies, c'est de toujours remporter la victoire, toujours et ce, en tout lieu, nous dit l'apôtre Paul. Vous êtes amen à ça. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous rappeler, Seigneur, qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Tu as remporté la victoire pour nous. Et Seigneur, ce que tu veux pour nous, ce que tu as planifié pour chacun de nous, Seigneur, c'est d'être des vainqueurs. Des vainqueurs, non pas parce que nous devons remporter des victoires, mais parce que nous devons marcher dans la victoire que Christ a remportée. Seigneur, que tu puisses ce matin visiter tous et chacun ici présent, que ton Saint-Esprit puisse pénétrer les cœurs, faire tomber les forteresses s'il y a lieu, afin, Seigneur, que ta parole, qui est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants, puisse venir se loger là dans nos cœurs où nous en avons besoin, pour éliminer ce qui doit être évacué, et pour être nourri, rempli par ta sainte parole qui nous vient d'en haut. Sois béni, Seigneur, et que le beau nom de Jésus soit avancé, glorifié, proclamé. C'est en son nom que nous te prions, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous dites peut-être, pasteur, est-ce que tu n'es pas en train de forcer un peu la note? Il n'y a personne qui peut toujours remporter la victoire en tout lieu. Eh bien, je suppose que Paul a fait une erreur en écrivant cela, mes chers amis. Paul n'a pas fait d'erreur si vous n'avez pas la victoire. Si nous n'avons pas la victoire, ce n'est pas parce que Paul a fait une erreur, c'est parce que nous ne nous sommes pas appropriés cette victoire qui est la nôtre, qui est la mienne en Jésus-Christ. L'apôtre admet la possibilité qu'un enfant de Dieu connaisse sa défaite, mais en aucun temps, Paul ou Jean, dans son épître, en voit la nécessité. Pour Paul, la vie chrétienne normale, ce n'est pas qu'un chrétien tombe, se relève, pour Paul et pour Jean, la vie chrétienne normale, c'est de marcher dans la victoire de Jésus-Christ, être des gens victorieux. Le Seigneur a mis sur pied pas une armée qui va subir la défaite constamment, mais une armée qui marche dans sa victoire, dans la victoire remportée par Jésus-Christ à la croix. Regardons encore une fois ce qui est écrit au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Il nous fait toujours triompher en Christ. Prenons quelques instants, frères et sœurs, pour parler du mot triomphe. Si jamais vous allez au Forum de Rome, vous allez voir un arc appelé l'arc de triomphe. Et c'est ça à quoi Paul fait référence ici. C'est-à-dire pour la même raison pour laquelle cet arc a été construit. Lorsqu'un général romain partait à la guerre et qu'il remportait la victoire, les Romains avaient l'habitude de célébrer cette victoire dans les rues de Rome. Un héros, pas H-E-R-O-S, mais un héros H-E-R-A-U-T, eh bien, se présentait avant l'arrivée du général pour annoncer aux habitants de Rome que le général avait gagné. Les gens n'avaient pas accès à l'époque à TF1, RTL ou France 2. Ils n'avaient donc pas tout ce que nous avons aujourd'hui, entre autres les GSM, les ordinateurs, pour être mis au courant rapidement de ce qui se passait dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un coureur un héros qui annonçait les bonnes nouvelles en disant « Rome a gagné ». Et voici maintenant comment il célébrait cette victoire. Il arrivait parfois qu'il construisait un monument semblable à l'Arc de Triomphe que nous retrouvons à Rome. Et qu'il est, en fait, à Rome, c'est un monument qui a été élevé finalement à la gloire de l'empereur Titus, qui a envahi Jérusalem en 70 et qui a détruit finalement le temple de Jérusalem. Donc, on a construit cet Arc de Triomphe que, encore aujourd'hui, on peut voir à Rome. Est-ce que vous savez que le mot que nous utilisons pour héros et pour prédicateur de l'Évangile, c'est c'est le même mot en grec? Est-ce que vous savez ce qu'est un prédicateur? C'est quelqu'un qui se tient devant vous en disant « Jésus a remporté la victoire ». Amen. Jésus a remporté la victoire. Nous avons la victoire en Jésus-Christ, frères et sœurs. Voilà en quoi consiste la prédication de l'Évangile. C'est annoncer tout simplement la victoire que Jésus, le Seigneur Jésus, a remportée sur la mort, sur le monde, sur le diable et sur le péché. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous sommes du côté du vainqueur. Jésus a vaincu l'ennemi. Lorsqu'un héros arrivait à Rome, il disait que Rome avait remporté la victoire. Les gens se préparaient à célébrer. Et qu'est-ce qu'on faisait? On suspendait des guirlandes, des drapeaux et des fleurs partout dans la ville. Et les gens faisaient la queue et pour participer à la parade. Et les prêtres prenaient de grands bols d'encens et ils commençaient à brûler de l'encens au point où toute la ville était remplie de cette bonne odeur de victoire. Et lorsque vous allez en Floride, peut-être probablement en Espagne aussi, il y a des oranges en Espagne, non? Bon, je ne suis jamais allé en Espagne, donc la Floride, ça va. Il y a des oranges. Bon. Et lorsque vous allez, je vais parler de la Floride, et lorsque vous allez en Floride, parce que c'est là qu'on cultive les oranges, et lorsque vous allez en Floride et que les fleurs, finalement, les orangers sont débordent de fleurs, eh bien, l'air environnant est rempli de cette bonne odeur de parfum d'oranger. Et à Rome, on utilisait de l'encens et toute la ville était remplie de cette bonne odeur de victoire. Et lorsque le général revenait à Rome, il conduisait un char qui était tiré par un magnifique cheval blanc. Et qu'arrivait-il au général vaincu? Eh bien, les Romains ne le tuaient pas. Ils avaient un bien meilleur plan. Ils voulaient l'avoir vivant. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le plaçaient, finalement, afin qu'il soit à la vue de tous. Ils l'enchaînaient à l'arrière du char victorieux du général. Et là, pour l'humilier, ils le traînaient dans la poussière complètement nu, dépouillé de son bel uniforme, de ses médailles et de ses insignes. Et quand le général passait devant la foule, celle-ci proclamait la victoire parce que Rome avait remporté la victoire. Le général était allé combattre et il était revenu victorieux. Paul dit au verset 14 ici, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Est-ce que vous savez, frères et sœurs, qui est enchaîné au char de Jésus? Est-ce que vous savez qui a été dépouillé, exposé à la face du monde et entièrement humilié? C'est Satan. Et il ne veut pas que nous sachions, que nous apprenions cette nouvelle. Il ne veut pas que vous appreniez, que j'apprenne, que nous avons toujours la victoire en tout Dieu, peu importe où nous sommes. Il y a trois choses que nous devrions retenir. Premièrement, on va regarder encore une fois le verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Prenez note de ce que Paul dit ici. Il nous fait toujours triompher en étant unis à Jésus-Christ. Notre victoire, frères et sœurs, elle est en Christ. Si je suis vainqueur du diable, c'est en Christ. Voilà où se trouve notre victoire. Jésus a vaincu le diable. Tournez avec moi dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 13. Colossiens, chapitre 2, verset 13. Quelques livres un peu plus loin. Alors, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 13, Paul traite du même sujet qu'il va traiter dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Et regardez ce qu'il dit. Il parle de la victoire que Jésus, le grand conquérant, a remportée pour vous et moi. Rappelez-vous, lorsqu'un général romain avait gagné, Rome avait gagné. Lorsque Jésus a vaincu Satan, nous avons gagné. Voici maintenant comment Paul décrit cette victoire dans Colossiens, chapitre 2, verset 13. Et vous, chers amis, il est en train de parler de vous et de moi, il commence. Et vous, qui autrefois étiez spirituellement morts à cause de vos péchés, et que vous, parce que vous étiez des incirconcis, c'est-à-dire des païens, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Cela signifie que Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque le général romain rentrait dans Rome, dans son char, tirant son cheval blanc, circulant dans les rues de Rome, frères et sœurs, les Romains, saluaient cette victoire. Pourquoi? C'était comme s'ils avaient remporté cette victoire. Ils célébraient la victoire du général. Pourquoi? Parce que le général leur avait procuré la sécurité. Il avait accordé la victoire sur l'ennemi. Et les gens de Rome pouvaient vivre en paix. Frères et sœurs, spirituellement, à la foi, c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il est notre général qui a paradé devant notre Père céleste et qui a vaincu le malin. Et frères et sœurs, comme les Romains qui marchaient dans la victoire du général qui avait remporté la victoire sur l'ennemi, c'est de la même façon que les chrétiens doivent marcher dans la victoire que Jésus-Christ a remportée à la croix. Voilà pourquoi on dit qu'on est mort avec Jésus-Christ et qu'on est ressuscité avec Jésus-Christ. On marche dans la victoire que Jésus a remportée pour nous sur notre ennemi. Frères et sœurs, la première chose que le Seigneur nous a délivrés, c'est de la mort. Vous êtes délivrés de la mort. Il est écrit que Jésus a été manifesté afin de pouvoir détruire celui qui avait le pouvoir de faire mourir, et c'est le diable. Par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Frères et sœurs, ne pensez pas que lorsque vous n'étiez pas sauvés, vous étiez juste malade et que vous aviez besoin juste d'aller un peu mieux. Lorsque nous n'étions pas sauvés, nous étions morts spirituellement, nous dit l'apôtre Paul. Nous avions besoin d'un miracle. Nous avions besoin de ressusciter. Nous n'avions pas seulement besoin d'une cure de jouvence, nous étions spirituellement morts, nous dit la parole. Et Jésus a détruit le diable qui avait le pouvoir sur la mort et il nous a donné une nouvelle vie. Une nouvelle espérance. Et j'espère que vous marchez dans cette victoire remportée par Jésus sur la croix. Chers frères, nous étions morts dans nos péchés. Et lorsque Jésus-Christ est mort, il nous a délivrés de la mort. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand Jésus est ressuscité, frères et sœurs, on est ressuscité avec lui, c'est ça que ça veut dire. Quand il a gagné la victoire, quand il a gagné la bataille, on a gagné la bataille avec lui. On fait partie de son peuple. Il a remporté la victoire pour nous et on marche dans cette victoire, c'est important. On n'a pas à remporter des victoires. Parce qu'on va essayer de remporter des victoires pour nos propres forces et la vie des terres. On va tous tomber. Tous tomber. Et c'est là souvent qu'on fait l'erreur. On se dit, je suis chrétien, je suis capable de vaincre. Non, tu n'es pas capable de rien faire en dehors de lui, en dehors de Jésus. Et la parole nous le rappelle constamment à travers l'apôtre Paul. Le Seigneur nous a non seulement délivrés du diable, nous a non seulement délivrés de la mort, mais ils ont aussi délivré de la dette de notre péché. On en a parlé, je ne rentrerai pas trop en détail là-dessus, on en a parlé pendant quelques semaines. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait une dette énorme et c'était notre péché. La parole nous dit que tous on a péché, que tous on est privés de la présence de Dieu et que le salaire du péché, c'était la mort. Le prix exigé par la loi de Dieu, c'était la mort et Jésus-Christ est mort à notre place. Il a payé notre dette. Il a rempli les conditions que la loi imposait pour quiconque avait péché. Et il n'a jamais péché, mais il a été fait péché pour nous. Il a été puni à notre place afin que nous puissions recevoir, être réconciliés avec Dieu, recevoir le pardon de Dieu. Quel grand Dieu nous avons, quel grand sauveur nous avons, frères et sœurs. Amen. Colossiens chapitre 2. On est toujours dans Colossiens. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qu'est-ce que Paul dit au verset 14? Il nous parle de ce document qui nous condamnait. Un document qui nous condamnait, qui a été supprimé à la croix. Toute notre dette, notre péché, tout ce que nous avons fait a été cloué à la croix de Jésus-Christ, qui a souffert, qui a versé son sang et qui est mort à notre place, afin que la dette de notre péché soit payée devant Dieu. Et quand Jésus a expié pour nos péchés, Jésus a baissé la tête et il a dit, « Télestai, Tout est accompli. J'ai payé entièrement Hélène ta dette, Salvatore ta dette, Jacques ta dette. J'ai payé entièrement ta dette. Entièrement. Si vous avez reconnu que Jésus est mort pour expier vos péchés, lorsque le diable vient vous narguer, vous pouvez dire, tu vois ça? C'est le document qui confirme que ma dette a été payée. Je voulais le lire en français courant. Je ne sais pas ce qui est passé ma Bible en français courant. En français courant, le verset 14 est clair. Il y avait un document qui nous accusait. Sur ce document, c'était toute la liste de nos péchés. Et toute la liste, et le document de l'apôtre Paul nous dit que ce document, il a été crucifié à la croix avec Christ. Et aujourd'hui, quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas avec toute la liste de nos péchés. Il nous voit avec une feuille blanche parce que la feuille sur laquelle contenaient nos péchés a été lavée par le sang de Jésus-Christ. Voyez ce que Jésus a fait. Il a pris ce document qui nous condamnait et il l'a cloué à la croix. Frères et sœurs, Jésus est passé de la prison de l'humanité et il a dit, je vais prendre le document qui t'accuse. Je vais prendre ton document, et je vais le prendre sur moi. Je les prends tous, même les plus sales, même les plus dégoûtants, les plus repoussants. Toutes les mauvaises choses que vous avez commises, il a pris ce document qui nous accusait, qui vous accusait, et il a cloué à la croix. Et lorsqu'il est mort, il a payé entièrement la dette de notre péché. Et chers amis, c'est ça la bonne nouvelle, parce que Jésus a tout accompli par amour pour nous. Chers amis, c'est pas encore fini. Et c'est important de réaliser que Jésus-Christ a tout fait cela par amour pour nous. Et dans cette salle ce matin, peu importe le péché que vous avez pu commettre, même un péché que vous êtes incapable de vous pardonner vous-même, rappelez-vous qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas vous pardonner. Que Christ est mort pour tous les péchés, les plus sales qu'on peut penser. Il est mort pour les homosexuels. Il est mort pour les pédophiles. Il est mort pour les incestueux. Il a pris sur lui toute cette saleté. Et il a crucifié à la croix. Il est mort pour les homosexuels qui se repentent. Il est mort pour les pédophiles qui se repentent. Et il est mort pour les incestueux qui se repentent. Le secret de la réconciliation, c'est la repentance. Sans repentance, il ne peut pas avoir de pardon de péché. C'est la repentance et c'est l'exercice le plus difficile qu'un homme peut faire dans sa vie. Parce que l'homme est tellement orgueilleux. L'homme serait prêt à sortir l'argent de son compte de banque pour racheter le pardon de ses péchés et de le confesser avec sa bouche. Et que c'est difficile. On le sait, on est tous passés par là. J'espère que vous avez tous cette certitude dans votre cœur ce matin, que si Dieu vous rappelle à lui aujourd'hui, vous avez tous la certitude de savoir où vous allez passer l'éternité. Peut-être que vous êtes dans cette salle ce matin, que vous ne voyez pas que Dieu existe, que ça ne change rien à votre sort. Quand vous allez comparaître devant lui, quand vous allez mourir, vous allez comparaître devant lui, vous allez réaliser qu'il existe. Et il sera trop tard parce qu'il est écrit qu'il n'est permis qu'un homme de mourir qu'une seule fois. Après vient le jugement. Et Dieu, dans son amour, va tout faire pour nous éviter le jugement. Amen. Non seulement a-t-il vaincu la mort, dans Colossiens 2:13, il a payé notre dette, mais il a aussi vaincu le diable. Regardez ce qui est écrit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Exactement comme le général faisait avec le général vaincu, attaché, enchaîné derrière son char, tiré complètement nu, traîné dans la poussière et vraiment ridiculisé devant le peuple rassemblé. Satan a été dépouillé de tout son fasme, de toute sa majesté, de toute la gloire qu'il avait lorsqu'il était le chef des anges. Au calvaire, Jésus l'a dépouillé et, frères et sœurs, la parole nous rappelle, Paul nous rappelle que Christ à la croix, eh bien, à travers son sacrifice, eh bien, l'œil malin a été livré en spectacle. Il a été aussi humilié. L'expression ici que Paul dit « livré publiquement » signifie « être humilié ». Frères et sœurs, Satan a été ridiculisé. Il a été outrageusement traîné devant les peuples de ce monde et offert un spectacle devant tous. Et Satan, frères et sœurs, veut toujours que vous le voyez comme quelqu'un qui contrôle tout. Mais son dos a été brisé. Il a été enchaîné, je le répète, au char de Jésus. Il a été livré publiquement en spectacle. Et frères et sœurs, Satan ne veut pas que nous sachions qu'il a été dépouillé et qu'il a été humilié. Frères et sœurs, si vous êtes nés de nouveau, le seul pouvoir que le diable a sur vous, c'est le pouvoir que vous voulez bien lui donner. C'est le seul. C'est le seul. J'espère que vous en avez une conviction. Quand vous dites oui le péché, ce n'est pas parce que le diable vous a tenté et qu'il vous a fait tomber, c'est parce que vous avez dit oui si vous êtes nés de nouveau. Parce qu'en Jésus-Christ, vous avez la capacité de dire non à toutes sortes de péchés, à tous les péchés. Il a été vaincu, verset 15, triomphant d'elle par la foi. Paul fait référence ici aux dominations, aux démons, à tout ce qui traîne avec le malin. Et il dit, il a été dépouillé, humilié, vaincu. Voici une deuxième chose que j'aimerais vous faire remarquer. C'est là-dessus que j'aimerais concentrer mon message ce matin et prendre un peu plus de temps. Non seulement il est l'auteur, Jésus est l'auteur de cette victoire, mais frères et sœurs, cette victoire, elle est aussi la vôtre, elle est aussi la nôtre. Tournez à nouveau dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui, remarquez maintenant les trois premiers prochains mots, nous fait toujours. Vous pouvez souligner dans votre Bible ces trois mots, nous fait toujours. Il ne dit pas, il nous fait quelquefois, une fois de temps en temps, il nous fait toujours. Vous pouvez souligner vraiment ces trois mots. Il nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu, c'est-à-dire partout l'odeur de sa connaissance. Soulignez également le mot en tout lieu. C'est pas parce que je suis à tel endroit que je ne remporterai pas la victoire. En tout lieu, dit l'apôtre Paul. Et il nous fait toujours triompher en tout lieu. Soulignez ce texte, il est important pour vous. Il est important pour moi, voyez, souligner. Est-ce que Paul exclut quelque chose? Non, absolument rien. Il ne dit pas que Dieu nous fait triompher quelquefois et à certains endroits, mais Paul dit bien ici que Dieu nous fait toujours triompher en tout lieu. Pour Paul, Dieu nous accorde toujours la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57, Paul rend grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne rend pas grâce pour la victoire que Dieu nous a donnée ou qu'il nous donnera en Jésus-Christ, mais il rend grâce pour la victoire que Jésus nous donne aujourd'hui dans notre famille, dans notre travail, dans notre santé, dans nos finances, peu importe où nous sommes, nous remportons, vous remportez la victoire en tout lieu. Vous êtes des bien pasteurs, cela signifie que je ne viendrai jamais en eau trouble, que la vie aura toujours le goût du miel sans les piqûres d'abeilles, qu'il n'y aura jamais de nuages dans ma vie, que j'aurai que le soleil et les roses qui seront toujours au rendez-vous. Ça veut dire que vous êtes en train de dire, pasteur, que je ne serai jamais malade, que je serai toujours heureux et joyeux. Je n'ai jamais dit ça. Si vous n'aviez jamais de problème, frères et sœurs, vous n'auriez jamais besoin de remporter la victoire. Frères et sœurs, rappelez-vous que lorsque Paul écrit cette lettre, il vivait de graves difficultés. Regardez au chapitre 2, versets 12 et 13. Au reste, lorsque je suis arrivé à Troie pour y annoncer l'Évangile de Christ, malgré le fait que le Seigneur m'avait ouvert une porte, j'étais profondément inquiet parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Paul dit qu'il est venu de Troas pour prêcher à Corinthe, mais qu'il n'a pas trouvé Tite, que rien n'a marché comme il avait prévu, qu'il a dû partir pour la Macédoine. Tout ce que Paul avait planifié tombait à l'eau. Il avait perdu une opportunité de prêcher l'Évangile, mais il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et frères et sœurs, l'apôtre Paul, ce n'est pas un extraterrestre qui est descendu du ciel puis qui est venu ici sur la terre et qui est une personne à part de nous. C'est un pécheur, il dit « Je suis le pire des pécheurs ». C'est un ancien pharisien qui allait chercher avec des documents que les prêtres lui donnaient, qui rentrait dans les maisons, qui allait enlever les chrétiens, qui allait enlever les enfants de famille chrétienne, et puis qui persécutait les chrétiens de son époque. Et Paul, eh bien, c'est pas Paul qui cherchait Jésus sur le chemin de Damas, c'est Jésus qui cherchait Paul sur le chemin de Damas. Et Jésus a mis les pendules à l'heure avec Paul. Il voyait le cœur, cette recherche de Paul, profondément religieux, mais pas sauvé, profondément perdu dans sa religion. Et Paul ici, il vit des difficultés. Il rencontre des difficultés. Et frères et sœurs, la question qu'on peut se poser ce matin, avant de continuer dans notre étude, comment Paul, dans des difficultés épouvantables, pouvait-il dire « Grâce soit rendue à Dieu » qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Est-ce que Paul a compris que nous, chrétiens du 21e siècle, nous avons beaucoup de difficultés à assimiler et à saisir qui se trouvent encore dans la parole de Dieu aujourd'hui? Si vous pensez que Paul n'avait pas de problème, ou si vous pensez que je suis ridicule en vous disant que vous êtes appelé à être victorieux en tout temps, regardez ce que Paul dit au chapitre 4, versets 8 et 9. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, c'est-à-dire dans la détresse, mais non désespérés. On nous persécute, mais Dieu ne nous abandonne pas. Nous sommes jetés par terre, mais non détruits. Paul se considérait comme un athlète qui remportait toujours la victoire. Il vivait des moments difficiles. Il connaissait certaines difficultés, mais regardez ce qu'il dit au verset 8. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Je le répète, nous sommes dans la détresse, nous sommes inquiets, mais non désespérés. Il y a peut-être des gens ici ce matin qui traversent des moments pénibles. Je veux dire qu'ils vivent de grosses difficultés. Vous avez peut-être consulté le médecin et vous annoncé que vous aviez une tumeur maligne. Il vous a dit que sans un miracle, vous n'aviez aucune chance de vous en sortir. Certains dans cette salle prennent de l'âge. Vous vous sentez peut-être seul et abandonné parce que vos enfants sont égoïstes et ingrats envers vous. Vous allez dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail et vous ne recevez pas de courrier. Vous attendez que votre téléphone ou votre GSM sonne, mais personne ne vient, ne vous contacte. Il y a peut-être des gens dans cette salle ce matin qui sont à la recherche d'un emploi et qui ne trouvent pas. Et vous savez que vous avez besoin de cet emploi. Vous êtes parents et vous avez des enfants qui, par leur conduite, vous brisent la garde. Un de vos enfants consomme peut-être de la drogue. Vous avez peut-être une fille qui vous aime énormément, que vous aimez énormément et qui pourtant découche de temps en temps. On dit ça ici, découcher, oui. Qui découche de temps en temps. Et vous vous dites en vous-même, pasteur, vous appelez ça remporter une victoire. Chers amis, c'est à partir de ces choses que vient la victoire. Le diable dit, je vous tiens, je vais vous cogner les épaules au tapis, vous ne vous relèverez pas. Vous dites, Jésus aide-moi à relever, à me relever, il tarde à vous lever. Voilà exactement ce que Paul est en train de parler ici. Il dit, accablé de toutes sortes de souffrances, mais non écrasé. Inquiet, mais non désespéré. Et le mot détresse, dans la détresse, signifie je ne sais pas, je ne comprends pas. Il n'y a pas moyen de m'en sortir, mais je ne suis pas désespéré. Frères et sœurs, y a-t-il des fleuves ce matin franchissables dans votre vie? Y a-t-il des montagnes que vous ne pouvez pas franchir? Dieu se spécialise dans les choses qui semblent impossibles. Il connaît mille façons de vous en sortir et de vous sortir surtout de toutes les situations difficiles que vous vivez. Paul dit, on nous persécute, verset 9. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Nous sommes jetés par terre, mais non détruits. Vous avez des ennemis, des gens qui vous en veulent, qui veulent vous faire du mal, frères et sœurs. Si ce n'est pas le cas, cela viendra bien un jour. Lisez-vous, écoutez-vous les nouvelles de temps en temps. Le moment de remettre en question les valeurs judéo-chrétiennes est arrivé. Frères et sœurs, on assiste à une guerre culturelle et spirituelle et nous pouvons nous préparer à être persécutés à cause de notre foi. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe dans le monde. On n'est plus dans une société postmoderne, on est dans une société maintenant anti-chrétienne. Ce n'est pas une société post-chrétienne, je le répète, mais une société anti-chrétienne. Les lois vont à l'encontre de tout ce qu'on a vécu avant. Et frères et sœurs, il y a un pays qui est en train de voter une loi où maintenant, à partir de 14 ans, ça ne sera plus considéré comme de l'inceste. Donc une jeune fille qui couche avec son père à partir de 14 ans, ça ne sera plus considéré comme étant de l'inceste. Frères et sœurs, on est parti dans toutes les directions avec le péché. Il n'y a plus de limite au monde pour pécher. Et ce qui est encore plus conséquent, remarquez nos gouvernements maintenant qui baissent les lois pour voter. En baissant les lois pour voter, en rendant nos enfants adultes à partir de 16 ans, eh bien, les choses qui étaient péchées, qui étaient criminelles, par rapport à ce qui se passait avec les enfants de 16 ans, pas de 18 ans, ne seront plus considérés comme criminels parce qu'ils seront maintenant devenus des adultes en fonction de la loi. Frères et sœurs, toutes les religions sont en train de se rassembler ensemble, ce grand syncrétisme religieux, déjà prédit dans la Bible. On voit qu'il y a des démarches qui se font partout à travers le monde. Et frères et sœurs, on a besoin de se rappeler à travers les persécutions qui s'en viennent qu'on a toujours le pouvoir en Jésus-Christ. Que le Seigneur est là pour nous protéger. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours, et ça jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai averti d'avance pour que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. » Il a aussi dit, « Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous, parce que vous êtes mes disciples. » Frères et sœurs, est-ce que vous êtes heureux quand les gens vous persécutent, quand les gens vous insultent, quand les gens mentent et disent du mal de vous parce que vous êtes un chrétien? Est-ce que vous êtes heureux? Le Seigneur, il nous dit d'être heureux. Regardez pourquoi. Il y a une promesse qui accompagne ça. Réjouissez-vous. Soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Et là, il nous fait un rappel. C'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous, qui vous ont précédé. Frères et sœurs, Jésus est suffisamment puissant pour venir en aide à ceux qui sont fidèles, qui se tiennent debout en ce qui concerne la foi et qui refusent de plier le genou. Paul dit, jeté par terre, mais non détruit. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Tomber par terre, mais pas détruit. Frères et sœurs, Satan vous voit par terre et comme un arbitre le fait à la boxe, il compte 1, 2, 3, 4, 5. Et oh, surprise! Voilà qu'il vous voit vous relever à nouveau. Et là, il se dit, je croyais que j'en avais fini avec lui. Il pourrait jamais... Mais il se fait raison, il ne pourra jamais finir avec nous. Jamais. Parce que Jésus lui a déjà donné son corps. Il l'a vaincu. Et parce que nous avons la victoire dans la personne de Jésus-Christ, il n'a jamais demandé de nous vaincre, frères et sœurs. Amen. Paul avait des ennuis, il était attristé par certaines situations vécues par les chrétiens. Il a souffert à cause de sa foi. Il a connu l'angoisse. Il a été tenté. Il a traversé de nombreuses épreuves. Mais il a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et frères et sœurs, lorsqu'on parle que le Seigneur veut nous faire ressembler à Jésus-Christ, le Seigneur, il veut nous amener à répéter les mêmes paroles que Paul répète ici. Grâce soit rendue. Peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, grâce soit rendue. Que les gens disent du mal, que les gens mentent parce que je suis un chrétien, grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que Jésus-Christ a le contrôle de nos vies. Mais s'il n'y a pas le contrôle de nos vies, frères et sœurs, on est cuit. Parce que le secret de Paul, si vous lisez les Écritures, particulièrement l'Épître aux Éphésiens, c'est toujours en étant unis à Christ. En étant unis à Christ, j'ai la victoire. En étant unis à Christ, je peux dire non à la tentation. En étant uni à Christ, je peux éviter de pécher. En étant uni à Christ, je peux grandir dans ma foi chrétienne. Le problème, c'est qu'on oublie en étant uni à Christ, on y va par nos propres forces, et là, on culbute, on est découragé, puis on se dit, c'est ça la foi chrétienne, mais il me semble que je serais plus heureux quand je suis dans le monde. C'est important de saisir l'argument de Paul ici. Si vous ne rencontrez pas d'opposition, frères et sœurs, de quoi ou de qui avez-vous besoin de triompher? Quand on fait face à de l'opposition, frères et sœurs, ça nous permet de mesurer la grandeur de notre foi, où on en est rendu dans notre foi. Si vous ne vivez jamais de difficultés, si vous ne traversez jamais d'épreuves, si vous n'avez jamais d'occasion d'être triste, de verser une seule larme, ni aucune crainte, si vous ne vivez aucun problème, alors, de quoi voulez-vous triompher? On n'est pas encore au paradis. On est sur une terre, on sait qui la dirige, on sait quel est l'esprit derrière ce monde. Les frères et sœurs, on doit s'attendre à passer par ces choses-là. On doit s'attendre parce qu'il y a des frères et sœurs ou des gens qui se disent frères et sœurs, qui disent du mal de nous, qui parlent, qui nous persécutent. Jésus ne dit pas où on va être persécuté, ni par qui. Mais ça fait partie de notre vie chrétienne. Et le but, le Seigneur permet ces choses non pas dans le but de nous détruire, mais dans le but de nous faire grandir pour qu'on soit en mesure de dire « Grâce soit rendue à Dieu qui nous permet de toujours triompher en Jésus-Christ, en étant unis à Christ. » Toujours. Finalement, en terminant, je voudrais que vous remarquiez la bonne odeur de notre victoire. Les prêtres à Rome brûlaient de l'encens. Pour qui? Pour qui brûlaient-ils de l'encens? À cause de la victoire de Christ? Non, frères et sœurs, à cause de ma vie, à cause de votre vie, qui sont pour Dieu la bonne odeur de Christ. Et pourquoi faisons-nous cela? Regardez ce que Paul dit au verset 14. afin que nous puissions manifester l'odeur, le parfum de la connaissance de Christ en tout lieu. Lorsque nous faisons face à l'adversité, lorsque nous vivons des épreuves ou des situations qui nous attristent, que nous sommes persécutés, accablés de toutes sortes de souffrances, inquiets, que nous manquons du nécessaire, et que nous louons alors Dieu parce que nous nous appuyons sur la victoire que nous avons dans le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est alors que nos vies deviennent un parfum, une bonne odeur, et que nous rendons témoignage au fait que Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Je connais une famille à Chicoutimi, au Québec. Ils étaient vite. Ils étaient des chrétiens. Et à l'heure du souper, toutes les assiettes étaient vides. Et le père demande à rendre grâce, il n'y avait pas de nourriture. Là, je ne vous parle pas à l'époque de Jésus, je vous parle il y a peut-être 50 ans. Et là, il commence à rendre grâce, et rend grâce à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Il rend grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a préparé pour eux à manger. Il n'y a rien sur la table. Il n'y avait rien dans les marmites. La femme n'avait pas allumé le feu. Il n'y avait rien à faire cuire. Et au moment où il termine de rendre grâce à Dieu, on frappe à la porte. Et il y a quelqu'un qui arrive avec une commande d'épicerie. Il avait fait les courses pour la famille. Il y avait une voix qui lui avait dit dans son cœur, « Prépare une course pour tel montant, va porter ça à ta adresse. » Et ils ont pu, finalement, eh bien, célébrer dans la joie cette action de grâce qu'ils avaient fait monter vers le ciel. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Permettez-moi de vous donner le meilleur exemple que je connaisse qui se trouve dans Actes chapitre 16. Tournez avec moi dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Je pense que c'est le meilleur exemple pour nous dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. C'est Paul et Silas. Paul et Silas étaient des missionnaires et des évangélistes. Ils s'étaient rendus dans la ville de Philippe pour annoncer la bonne nouvelle et pour y implanter une église. Mais le diable s'y était opposé. Le texte nous rappelle, dans Actes chapitre 16, verset 17, qu'il y avait une femme qui avait un esprit de Python qui les suivait, qui disait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. » Pardon. Et il vous annonce le chemin qui conduit au salut. Frères et sœurs, est-ce que cette femme, elle n'était pas en train de dire la vérité? Bien sûr qu'elle était en train de dire la vérité. Mais c'était un tour du diable pour que les gens associent l'évangile avec l'occultisme. Paul savait que le diable est un ennemi intelligent et rusé. Il ne voulait pas être soutenu par l'enfer. Que va-t-il faire? Il va se retourner, le dit le texte, et il va réprimander cette femme dans le nom de Jésus. Il va faire sortir le démon qui est en elle. Les maîtres de la femme qui faisaient de l'argent grâce à cette diseuse de bonne aventure étaient furieux. Le texte nous dit qu'ils vont inventer de fausses accusations contre Paul et Silas et qu'ils vont les faire jeter en prison. Chers amis, si vous pensez que les conditions de détention sont mauvaises en Amérique, j'ai jamais mis les pieds dans une prison en Belgique, au Canada, oui, à cause de mon ancien métier. En Amérique, je sais que c'est un degré encore un peu moins de qualité. Mais il faut connaître les conditions de détention à l'époque de l'apôtre Paul. Les conditions, frères et sœurs, étaient épouvantables. Le crime qu'on leur reprochait, c'était d'avoir annoncé l'Évangile et c'était d'avoir chassé un démon qui était dans le corps d'une femme. Il n'y avait pas d'installation sanitaire. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'eau courante. Les gens dormaient et marchaient dans leurs propres excréments et dans leurs déchets. Il n'y avait pas d'air conditionné. L'hiver, la froid était insupportable et la chaleur l'été qui se dégageait de la cellule était suffocante. Il n'y avait pas d'éclairage, sauf un petit rayon de lumière qui s'infiltrait par un petit trou. Des restes de nourriture remplis d'asticots leur étaient servis. Les détenus étaient battus et fouettés, les maintenus attachés par des chaînes à des blocs de pierre. Et Paul et Silas étaient considérés comme des criminels parce qu'ils avaient chassé un démon dans le corps d'une personne. Et parce qu'ils prêchaient l'Évangile et qu'ils dérangeaient. Et voilà que nous retrouvons ces deux hommes de Dieu en prison. N'était-ce pas Paul qui avait dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. » Que font-ils maintenant? Sont-ils en train de se plaindre, frères et sœurs? Sont-ils en train de dire « Seigneur, est-ce de cette façon que tu traites tes serviteurs? » Nous sommes venus dans cette ville pour prêcher l'Évangile, nous sommes témoins d'un réveil, et qu'est-ce qui arrive? On nous jette en prison. Seigneur, est-ce que c'est pas toi qui as permis qu'on soit jeté en prison? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Mais c'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, que faisaient-ils? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. On a des prisons impeccables ici en Belgique. Il y en a une, entre autres, qui a du gazon partout. Il y a des lampadaires, il y a des bancs pour s'asseoir, il y a tout. Il y a tout sauf des cellules. Sauf des barreaux. Hein, une nouvelle prison. Vous n'entendez pas les prisonniers chanter. Hein? Vous n'entendez pas les prisonniers louer le Seigneur. Hein? On continue à se plaindre. Hein? Vous ne les entendez pas louer, vous les entendez plutôt blasphémer. Hein? Et qu'est-ce qui arrive ici? Tout à coup, il y a une bonne odeur qui commence à monter, frères et sœurs, à travers les louanges, à travers les prières de Paul et Silas. Un doux parfum venant de l'intérieur de la prison commence à monter jusqu'au ciel. Dieu sent cette odeur. Mais qu'arrive-t-il? Dieu va envoyer ses anges en leur disant de secouer l'endroit. Le texte nous dit, verset 26, « Il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, toutes les chaînes des prisonniers se détachèrent. » Ça, c'est un miracle, ça. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'intervention de Dieu. C'est un miracle. Et qu'est-ce qui arrive? Verset 27-28, « Le geôlier se réveille, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, il sort son épée pour se tuer. Mais Paul crie d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici, y compris les prisonniers. » Frères et sœurs, c'est intéressant, hein, que personne ne s'est enfui. Frères et sœurs, les prisonniers avaient tellement été impressionnés par la façon dont Dieu avait agi, par la puissance qu'il avait utilisée pour libérer ses serviteurs, qu'ils ont voulu demeurer en prison pour entendre l'Évangile. Et voilà qu'arrive le geôlier. Il voit que Dieu agit avec puissance. Il sent cet encens, cette odeur de vie. Et il pose une question, frères et sœurs, celle que vous et moi, nous avons besoin d'entendre de tous. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je me souviendrai toujours, frères et sœurs, de la conversion de notre frère Gaetano Steller. Dommage qu'il n'est pas là ce matin. Il vient pour reconduire sa femme, il n'en avait rien à cirer de mettre les pieds dans une église, c'était un ado. Et il ne sait pas pourquoi, il est rentré. Il s'est assis, je me souviens, j'étais assis à peu près où Elio et Angela. Il a entendu le message, il a demandé à sa femme si elle lui avait raconté ma vie. Si elle lui avait raconté sa vie, elle m'avait raconté, voyons, si elle m'avait vu avant, finalement, parce qu'elle m'avait raconté la vie de sa vie à lui. Je lui ai dit non. Moi, je ne sais pas ce que j'ai dit cette journée-là, j'annonçais l'Évangile. Après le culte, Salvatore D'Amico vient me trouver, il dit, Jacques, il dit, cet homme-là, c'est la première fois qu'il vient, il voudrait te parler. Je vais les prendre, ils sont le long du mur, ils sont juste après le culte. Je dis, oui. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ça, c'est la question du geôlier, frères et sœurs. Quand quelqu'un vous dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Frères et sœurs, c'est un fruit qui est mûr. Il a entendu l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Et la parole est claire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu, par son Saint-Esprit, a été capable de se frayer un chemin dans un cœur endurci par l'athéisme. Et il me dit, que dois-je faire pour être sauvé? Bien, je vais expliquer, il n'y a plus de décision pour le Seigneur tout de suite. Tout de suite. Il avait juré de jamais se marier dans sa vie. Il arrive un matin, il me sort sa Bible, il me dit, un dimanche après un culte, il dit, est-ce que tu lis la même chose que moi ici? Bien, j'ai dit, qu'est-ce que tu lis là? Il me dit, il n'est pas permis de vivre avec une femme qui n'est pas ton épouse. Ah, j'ai dit, oui, c'est ce qui est marqué. Il avait juré de jamais se marier, il dit, pas de problème, je me marie. Un cœur qui a été touché. Frères et sœurs, on a besoin d'entendre cette question capitale qui détermine la destinée d'un homme et d'une femme. Que dois-je faire pour être sauvé? C'est là qu'on doit conduire les gens à se poser cette question. Tant et aussi longtemps que les gens ne réalisent pas qu'ils sont perdus. Perdus. C'est pas que le corps se désintègre et c'est terminé. L'esprit retourne à son créateur, nous dit l'Ecclésiaste. Tant que les gens ne réalisent pas ça, qu'ils sont perdus, on sait très bien que ceux qui sont perdus, c'est un jugement qui les attend. Des souffrances terribles pour l'éternité. Et vous savez ce qui va se passer quand il va arriver le jugement dernier. L'enfer, quand on dit qu'il y a des grincements dedans, c'est pas parce que les gens vont brûler pour l'éternité. Ils vont voir pour la seule fois de leur vie, pour l'éternité, ils vont voir le paradis qu'ils auront perdu. Ça va être le souvenir, l'image qu'ils vont garder pendant toute l'éternité en enfer. Et se dire, j'ai-tu été idiot, imbécile d'accepter de vivre dans le péché plutôt que d'accepter l'offre que Dieu me donne à travers Jésus-Christ. Ah, c'est ça, l'enfer, c'est pas juste de brûler, c'est pas juste. C'est de voir ce qu'on va avoir perdu, ce que les gens vont avoir perdu pour l'éternité. Ce paradis qui va être déployé dans un panorama extraordinaire à la face du monde entier. Le Seigneur dit qu'avec les anges, il va séparer les boucs des agneaux. Que dois-je faire pour être sauvé? Chers amis, non seulement sommes-nous des témoins pour Jésus, mais nous sommes la preuve au quotidien que nous sommes ses enfants. Les gens ont besoin de sentir ce parfum, cet encens, cette bonne odeur de victoire. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et vous connaissez la réponse, frères et sœurs. Paul et Silas ont répondu aux geôliers, crois au Seigneur Jésus et toi et toute ta famille, vous serez sauvés. C'est-à-dire, si les gens qui demeurent dans ta maison croient, ils seront aussi sauvés. Et c'est ce qui est arrivé quand vous regardez le texte. Pensez-y. Les prisonniers furent sauvés. Je crois qu'ils ont été sauvés parce qu'au lieu de s'évader, ils ont demeuré en prison. Le geôlier fut sauvé. La femme du geôlier fut sauvée. Et les membres de la famille du geôlier furent sauvés. Frères et sœurs, le diable s'était dit, en voyant Paul et Silas, je vais arrêter ce réveil dans la ville. Mais il ne l'a pas arrêté, frères et sœurs. Il a simplement fait en sorte de déplacer le réveil à un autre endroit. La ville n'était pas prête à écouter, pas de problème. Dieu avait un plan. Et le réveil, ce n'est pas dans la ville qui devait avoir lieu, c'était dans la prison, frères et sœurs. Et Dieu va secouer non seulement les murs de la prison, il va secouer le cœur des prisonniers, le cœur du geôlier. Et il va donner la réponse au geôlier. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Crois que juste à travers lui que tu peux être sauvé du jugement, de la condamnation. Crois que c'est seulement à travers lui que tes péchés peuvent être pardonnés. Crois que c'est seulement à travers lui que tu peux être réconcilié avec Dieu, vivre une relation avec Dieu, naître de nouveau, devenir un citoyen du royaume des cieux, devenir non seulement un citoyen du royaume des cieux, mais devenir aussi un héritier. Tout ce que Dieu a réservé à Jésus-Christ, et on dit qu'il lui a tout donné, eh bien, c'est aussi à nous, parce que nous sommes co-héritiers, frères et sœurs, que Dieu puisse nous montrer cette dimension qui est nôtre en tant qu'enfant et héritier de Dieu. En fait, quand le diable va chercher à les écraser, c'est alors que le parfum qui est sorti est devenu une odeur de vie qui donne la vie. Frères et sœurs, c'est le doux parfum de victoire de Jésus. Et nos voisins ont besoin de sentir ce parfum. Chers amis, en terminant, lorsque vous êtes tristes, soucieux, attristés, désespérés, indécis, ouvrez vos Bibles et comme Paul, dites, grâce soit rendue. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher par Jésus-Christ. Nous sommes pour les uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Si la victoire de Jésus ne nous sauve pas, elle nous condamnera. Vous êtes d'un côté de la croix ce matin, vous êtes de l'autre côté de la croix. Il y avait un homme, une fois, qui était citoyen français, qui est devenu citoyen anglais. Vous vous rappelez que les Anglais ont vaincu les Français à Waterloo. Quand cet homme était citoyen français, Waterloo représentait une défaite pour lui. Mais lorsqu'il est devenu citoyen britannique, Waterloo représentait une victoire pour lui. Frères et sœurs, vous êtes d'un côté ou de l'autre de la croix ce matin. La croix, elle représente une défaite pour vous, elle représente une victoire pour vous. Votre vie démontre si la croix est une victoire pour vous ou si c'est une défaite pour vous. Parce que ce que Dieu veut pour chacun, c'est qu'on puisse proclamer grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire toujours en tout Dieu, en Jésus-Christ. Et tout cela dépend de quel côté de la croix vous vous trouvez ce matin. D'un côté de la croix, il y a une odeur de vie qui donne la vie. De l'autre côté de la croix, il y a une odeur de mort qui donne la mort. On a besoin d'être du bon côté, du côté où Jésus a remporté la victoire. Amen.